L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, notre dossier de l'atelier, on va parler de l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle sur les véhicules autonomes. C'est une révolution à venir. Et puis notre World Tour, on parlera du crédit téléphonique comme moyen de paiement à l'étranger. On sait qu'en Afrique notamment, ça cartonne là-bas. Et puis on ira du côté de la rédaction de Zeronet.com tout à l'heure avec Éric Le Bourlou. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanette, et on va parler de médecine et de nouvelles technologies. Quand les nouvelles technologies sont en train de révolutionner la manière de diagnostiquer les gens. Lila, on va en parler avec nos invités.
Alors, on va parler plus précisément, c'est le cas de le dire, de
la médecine de précision. D'accord.
Tout à fait, qui pourrait, comme vous le mentionniez, François, bel et bien changer totalement la manière dont on approche la santé, à savoir en développant des traitements en fonction du profil génétique de chaque individu. Alors, en France, le mouvement n'est pas nouveau. Nous avons un plateau un de ses pionniers, le docteur Christophe Le Tourneau. Bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe Le Tourneau, vous êtes responsable des essais précoces et de la médecine de précision à l'Institut Curie. Et nous avons également le plaisir d'avoir un autre spécialiste de la santé connectée, Jérôme Leleu. Bonjour. Alors Jérôme Leleu, vous êtes président du groupe Interaction Healthcare. Alors expliquez-nous un peu, messieurs, qu'est-ce que la médecine de précision ? Christophe Le Tourneau.
Alors, ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est une nouvelle approche qui consiste à ne plus traiter tous les patients qui sont atteints d'une même maladie de la même manière, mais de façon plus précise, en tenant compte de certaines caractéristiques, le plus souvent biologiques, afin d'affiner soit le diagnostic, soit le traitement des patients.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place à l'Institut Curie ?
Alors, l'Institut Curie, bien sûr, on traite le cancer, comme vous savez. Et donc, nous utilisons les caractéristiques des cellules tumorales des cancers, les analyser précisément, finement, essayer de détecter quels sont les talons d'Achille, si vous voulez, de ces cellules pour chaque patient individuellement et d'adapter le traitement à ces anomalies qu'on découvre.
Et là, c'est quoi ? C'est du calcul ? C'est quelles ressources de high-tech vous avez besoin dans ces cas-là ?
Il s'agit de séquençage, alors, c'est-à-dire qu'on va déterminer toute la séquence d'ADN des cellules tumorales. En réalité, les cellules tumorales ont un ADN qui est différent des cellules normales. C'est ce qui fait qu'une cellule normale devient cancéreuse. Et donc, on va les séquencer, c'est-à-dire qu'on va analyser tout le génome, si vous voulez, toutes les paires de bases d'ADN, pour essayer de détecter les anomalies qui sont à l'origine du cancer, si vous voulez. Et en fonction de ce qu'on découvre, on va donner le traitement qui correspond, traitement qui n'est plus ce qu'on appelle les chimiothérapies classiques, mais qui sont des thérapies ciblées qui vont aller cibler précisément ces altérations moléculaires.
Donc voilà, elles vont s'intéresser qu'aux cellules cancéreuses, pas aux autres.
Voilà, en fait. C'est ça la théorie, effectivement.
La théorie, pourquoi ? Parce que parfois, dans la pratique, c'est pas tout à fait le cas.
Effectivement, ces altérations moléculaires, elles sont principalement présentes dans les cellules normales, mais elles sont aussi dans les cellules cancéreuses, mais elles sont aussi parfois un petit peu présentes dans les cellules normales, ce qui explique que ces traitements, malgré tout, ont quand même certaines toxicités.
Voilà, ils ont des effets secondaires importants. Il y a d'ailleurs eu un cas qui a été assez médiatisé, non ? D'un enfant qui avait une leucémie et qui est parti aux États-Unis, justement, pour se faire soigner avec cette méthode, je crois bien.
Oui, alors effectivement, des patients qui cherchent des innovations, des nouvelles approches, pour certains, sont prêts effectivement à faire des kilomètres et en particulier à aller aux États-Unis pour ça. En effet, en France, le séquençage ne fait pas partie des choses qui sont remboursées aujourd'hui en cancérologie, alors que aux États-Unis, c'est pris en charge par les mutuelles, effectivement.
D'accord.
L'expérience, vous disiez en préparant l'émission que finalement la médecine de précision, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui que ça décolle enfin ?
Oui, en fait, on vit réellement une révolution technologique. C'est la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on parle de médecine de précision. C'est parce qu'on est capable aujourd'hui, pour un coût qui est relativement raisonnable et dans un temps qui est compatible avec le traitement des patients, de séquencer la tumeur des patients. Il y a 10 ans, c'était pas possible. Parce qu'il y a 10 ans, déjà, la première cellule qu'on a séquencée, ça a mis plusieurs années, ça a coûté plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, on est capable de séquencer donc la tumeur d'un patient en quelques semaines, en moins de 4 semaines et pour une dizaine de milliers d'euros. Donc si vous voulez, c'est l'échelle qui a changé. Et donc maintenant, cette technologie s'est démocratisée et on peut l'utiliser aujourd'hui dans le cadre des soins.
Aujourd'hui, pour se représenter, c'est davantage c'est un outil de préconisation, de traitement, de diagnostic. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain un médicament personnalisé selon chaque patient ?
Alors, c'est la conséquence, effectivement, de l'utilisation de ces technologies. Si, effectivement, on arrive à démontrer, mais on ne l'a pas encore réalisé, hein, mais qu'on arrive à démontrer que l'utilisation de ces technologies de séquençage à haut débit permet d'améliorer la survie des patients parce que ça permet de mieux choisir les traitements, dans ce cas-là, effectivement, ça va se démocratiser. Ce dont on se rend compte, c'est que les choses sont pas si simples que ça. Donc, on en est qu'au début, si vous voulez. Donc, voilà, nous avons effectivement à l'Institut Curie réalisé le premier essai comparatif avec des résultats encourageants, on va dire, mais pas suffisants pour passer en routine. Donc là, on va repasser sur un deuxième essai clinique. Et puis, il y a d'autres essais qui ont lieu dans d'autres pays du monde ou en France actuellement, qui testent cette approche de médecine personnalisée pour le traitement du cancer.
Mais est-ce que tous les cancers peuvent être soignés avec cette technique, à votre avis?
Alors, à terme, c'est ce qu'on espère, bien entendu. C'est-à-dire que ce qu'on espère, c'est qu'on va être capable de précisément pouvoir détecter le talon d'Achille hein, de ces cellules cancéreuses pour un patient particulier, pouvoir dire, bon, ben, pour ce patient, c'est ce traitement qu'il faut et pas celui-là. Voilà. Aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là. Donc, ça veut dire qu'on n'est encore qu'au début. Et aujourd'hui, on traite malgré tout les cancers en fonction de leur localisation tumorale. C'est-à-dire qu'on a des traitements pour le cancer du poumon, d'autres pour le cancer du sein, etc. Mais on n'en est pas encore au point où on se dit, bon, voilà, faisons abstraction du type de cancer, regardons uniquement la biologie, et c'est la biologie qui va nous dire exactement quel traitement il faut.
Mais c'est quand même révolutionnaire, et c'est aussi un élan d'espoir incroyable.
C'est ça. C'est porteur d'espoir, et c'est effectivement pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont lancées dans cette thématique, tout à fait.
Est-ce que demain, ça pourrait être un outil de prévention également, plus que de guérison, si on est capable de
repérer. Vous avez complètement raison, oui, parce que vous savez, hein, vous savez peut-être pas, mais quand un patient a un cancer, il y a un petit peu d'ADN de son cancer qui circule dans le sang. Et ce qu'on aimerait faire à terme, c'est pouvoir détecter cet ADN dans le sang très précocement. Simplement avec une prise de sang, avant même qu'on puisse détecter le cancer par les techniques d'imagerie conventionnelles, pour pouvoir le prendre très tôt, pouvoir le traiter très tôt. Alors aujourd'hui, c'est de la science-fiction, hein, bien entendu. Mais on peut penser à ça dans l'avenir, c'est-à-dire détecter ces petits fragments d'ADN qui circulent dans le sang, et puis reconnaître que c'est de l'ADN tumoral, de la tumeur, et donc engager des démarches thérapeutiques pour qu'il ne se développe pas de façon macroscopique, je vais dire.
Aujourd'hui, le frein, c'est la puissance de calcul qui fait défaut, ou c'est autre chose ?
Alors, il y a ça effectivement, mais c'est surtout la sensibilité de ces tests, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore suffisamment sensible pour faire la distinction entre l'ADN tumoral et puis l'ADN normal qui circule dans le sang, pour en faire la distinction de façon assez fine et être certain de détecter toutes les altérations. Il y a un autre point bloquant, c'est qu'il y a beaucoup d'altérations qu'on détecte, mais pour lesquelles il n'y a pas de traitements qui sont disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des traitements, finalement, pour seulement pour une fraction des altérations que l'on découvre. Donc ça, c'est le deuxième point qui est bloquant.
Est-ce que l'autre point bloquant ne serait pas le degré d'investissement financier, de partenaire? Est-ce qu'aujourd'hui, les investissements sont à la hauteur des enjeux?
Alors, ça s'est amélioré. C'est vrai qu'il y a quelques années, et on a vu ça quand on a lancé notre essai Shiva, c'était difficile de lever des fonds pour ce genre d'essai, parce que c'était une approche qui était nouvelle. Et c'est vrai que souvent, les financeurs sont un peu frileux face à des approches nouvelles. Maintenant, ça commence à changer et on voit pour notre essai Shiva 2 qu'on a eu bien moins de difficultés pour trouver des financements, parce que c'est une approche qui commence à faire son chemin et les gens commencent à comprendre l'intérêt de cette approche.
Alors, un autre pan de la médecine de précision qui pourrait aider, qui pourrait adjuver, c'est la simulation numérique. On va le découvrir avec vous, Jérôme Leleu, d'Interaction Healthcare. Alors, Interaction Healthcare, vous délivrez des outils de formation à la simulation numérique, c'est ça ?
En fait, en direction de l'ISCA, on a deux activités. Une activité de développement d'applications numériques à destination des patients, comme par exemple de l'éducation thérapeutique, et également pour les professionnels de santé. Et depuis maintenant 2010, on s'est spécialisé avec un département qui s'appelle Sim4Health et qui a pour objectif, en fait, d'apporter de nouvelles solutions numériques pour la formation des professionnels avec la simulation numérique. Alors c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison avec le domaine aéronautique. Les pilotes de ligne depuis 30 ou 40 ans se forment bien sûr par des simulateurs. Eh bien aujourd'hui, on recrée un peu le même système, sauf que on va virtualiser eh bien ce que rencontre l'ensemble des professionnels de santé avec pas uniquement un prisme technologique, mais aussi éthique, qui est jamais la première fois sur le patient. Et c'est là où on peut rejoindre un peu la thématique qui vient d'être abordée, c'est que bien évidemment les médecins les soins infirmiers également, on va découvrir un cas clinique virtuel, donc qui va recréer une situation particulière qui correspond à un patient qui a pu être créé, j'irais
de manière. Vous pouvez nous donner un exemple, Jérôme, pour qu'on comprenne.
Oui,
bien.
Si on prend aujourd'hui dans le domaine de la simulation, vous avez soit ce qu'on appelle le suivi de pathologie chronique, je pense à un diabète de type 2, pour lequel vous allez, vous en tant que médecin, avoir un patient virtuel qui va apparaître devant vous, devant votre tablette, votre ordinateur, et qui va vous décrire ces symptômes plus ou moins développés. Et en fait, on va recréer virtuellement ce que rencontrent tous les médecins aujourd'hui. Et donc, à partir de là, on va être dans ce qu'on appelle un raisonnement clinique où le médecin va pouvoir interroger le patient. Vous imaginez également les développements. On parle d'intelligence artificielle. On peut très bien demain avoir un patient qui va intégrer d'autres sources d'informations. Et donc, on va pouvoir échanger, faire également des parcours de soins, donc d'avoir des examens et qui permettent de réaliser. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième, c'est plutôt sur des gestes procéduraux. Donc là, on est en train de développer, par exemple, pour un centre de simulation au Kremlin-Bicêtre, qui s'appelle Lab for Sims, et qui a pour objectif, en fait, d'aider les personnes qui sont donc en soins infirmiers, et bien de pouvoir prendre en charge une patiente. Et donc là, vous rentrez dans une chambre d'hôpital et vous avez et bien des process à respecter. Donc on est vraiment là dans la création virtuelle et bien de l'environnement de travail au quotidien, et vous devez respecter des recommandations qui vont être portées par des acteurs comme la Haute Autorité de Santé. Donc on est vraiment dans une démarche extrêmement précise pour reproduire des gestes.
Pour comprendre, est-ce qu'on pourrait, par exemple, mesurer les effets d'un médicament avant de l'inoculer au patient via la simulation numérique à terme ?
Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt dans le champ en amont, donc de la formation. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien être dans la simulation pure, c'est-à-dire de recréer. Et là, il y a pas mal d'acteurs qui existent aujourd'hui, qui travaillent avec des acteurs, notamment des laboratoires pharmaceutiques, pour pouvoir recréer en amont. Donc, dans le champ de la simulation numérique, en fait, elle s'inscrit dans une sorte de démarche pédagogique un peu générale où vous avez, par exemple, des mannequins physiques qui sont recréés, qui sont synthétiques. Ça vous permet, par exemple, de faire un massage cardiaque et donc de pouvoir recréer. Et puis à côté, eh bien, vous allez avoir ce patient virtuel que vous avez peut-être sauvé. Eh bien, vous allez accompagner sur 10 ans. Et donc, vous avez tout un suivi et qui permet, en formation initiale pour des étudiants, mais aussi en formation professionnelle et continue, eh bien, d'avoir cette approche. Aujourd'hui, on a passé le cap des 22 000 médecins dans le monde qui utilisent ces solutions. Donc, ça montre que la simulation numérique, c'est pas que le futur, mais c'est déjà une réalité pour les professionnels.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Merci à tous les deux. Merci. Et si vous souhaitez creuser le sujet de la simulation numérique, on vous invite à assister à l'événement que vous organisez, Jérôme, le 11 mai prochain, l'Élysée-Biarritz.
Élysée-Biarritz, absolument.
C'est ça. Merci
beaucoup
à tous les deux.
Merci. On revient dans un instant. Suite de cet atelier dans une minute. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Notre World Tour à suivre dans un instant. Cette semaine, on va parler de crédit téléphonique pour payer à l'étranger. Mais dans l'immédiat, notre dossier d'atelier US, c'est avec vous, Pauline Kantner. On va parler de l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle sur les véhicules autonomes, Pauline.
J'ai eu en effet la double chance d'être aux côtés de Régis Vincent, qui est responsable de la partie software au SRI Robotics. Alors je dis double chance, pourquoi ? Parce que d'une part, Régis travaille au SRI, qui est ce centre de recherche à but non lucratif qui accompagne des agences gouvernementales, mais aussi des acteurs du secteur privé, à transformer des innovations de laboratoire en prototypes. En 65 ans d'innovation, le SRI a donné naissance à Siri, par exemple, mais aussi à la télé en couleur. Et double chance, pourquoi ? Parce que Régis, c'est pas la première fois que vous parlez au micro de l'atelier. En 2004 et en 2010 déjà, vous nous parliez de robots voitures au micro de Dominique Piotet. Donc c'est un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui. Régis, est-ce que vous pouvez dans un premier temps expliquer ce que vous faites au SRI et les buts de vos missions ?
Oui, donc en fait, je suis responsable de la partie software dans le groupe de robotique au SRI. La plupart de mes missions, c'est actuellement de développer des prototypes d'innovation en matière de robotique. En associant ici au SRI, nous avons à la fois la partie mécanique, électrique et logicielle dans un seul groupe.
Et est-ce que vous voulez nous parler de Motobot, ce projet qui a été présenté au CES, donc au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier dernier, avec qui, sur lequel vous travaillez avec Yamaha?
Oui, donc ce projet en fait est un projet de Yamaha. Ils nous ont approché il y a environ un an pour développer en fait un robot humanoïde qui est capable en fait de conduire une moto sans modification à la moto le plus vite possible. Le but étant d'ici un an, deux ans, de battre en fait ou d'approcher les temps des meilleurs pilotes de moto.
Et alors quel est le but pour Yamaha de conduire ce genre de projet ici ?
Le but pour Yamaha en fait est de deux parties. La première en fait qui est beaucoup plus à court terme, qui consiste en fait à développer un système de test pour automatique pour leur moto. Lors de développement de moto, il est effectivement courant de faire énormément de tests à partir de pilotes humains. Et ces pilotes, bien évidemment, ont une certaine variabilité, ils sont humains. Et Yamaha cherche en fait à avoir un système de test complètement automatique et veut développer en fait ce robot pour conduire leur moto sur leur test d'essai au Japon. La partie plus long terme en fait pour Yamaha est en fait de développer un robot humanoïde qui est capable en fait de prendre des outils humains et de les utiliser. Et pour eux, à ce moment-là, la chose la plus compliquée qu'ils pouvaient concevoir, c'était si un robot humanoïde est capable de conduire une moto, il est forcément capable de faire plein d'autres choses, parce que c'est relativement compliqué de conduire une moto à ces vitesses-là.
Et alors, en termes de performance, est-ce qu'il a réussi ce robot ?
En termes de performance, il est en fait assez jeune comme robot. Dans les premiers 9 mois, en fait, on a atteint 100 km heure et avec des virages assez peu serrés. On part en fait, effectivement, vous nous avez attrapé juste avant notre départ pour un essai privé sur un vrai circuit. Et donc d'ici demain ou mercredi, le robot est censé atteindre 200 km/h avec des virages beaucoup plus serrés. Donc on va vraiment essayer de commencer à faire la course avec.
Alors si on reparle du contexte de la voiture autonome, quel est le rôle en fait de l'intelligence artificielle pour l'autonomie de cette voiture ?
Le rôle de l'intelligence artificielle en fait est de deux parties. La première est une partie en fait de classification. Donc quand la voiture se déplace en manière autonome, elle regarde avec ses capteurs, elle regarde l'environnement et elle essaie de classifier assez rapidement qu'est-ce que est un obstacle fixe, on va dire les feux, les trottoirs, et qu'est-ce qui est un obstacle mobile en fait, soit une voiture, un piéton, un cycliste et un camion. Et donc ça, c'est la première partie de l'intelligence artificielle. Non, c'est classifier, et parce que ces obstacles ne sont pas gérés de la même façon. Les obstacles fixes a priori sont connus en avance. Les obstacles mobiles, non, c'est il faut tout de suite estimer leur direction, leur vélocité de façon à déterminer si en fait on va rentrer en contact, enfin on va s'approcher d'eux ou pas. La deuxième partie, c'est vraiment une partie purement génération de chemin et déterminer où passer dans ce monde-là, qui est beaucoup plus connu, qui est beaucoup moins complexe. Troisième partie, il y a une troisième partie qui est vraiment l'analyse de capteurs, où en fait en vision, il y a pas mal de d'intelligence artificielle pour notamment reconnaître les feux, s'ils sont verts, s'ils sont rouges, les stops qui ont ont besoin d'être reconnus rapidement dans les caméras.
Alors vu que vous êtes à vous tirer les ficelles en quelque sorte des logiciels qui sont derrière ces robots humanoïdes, est-ce que un jour vous serez prêt à vous conduire une voiture autonome ou vous retrouver derrière une voiture entièrement autonome?
Je pense que oui, quand c'est mon équipe, j'ai une confiance un peu plus grande. Est-ce que moi personnellement, j'achèterais une voiture autonome maintenant? Probablement pas. Premièrement, j'aime bien conduire, donc ça c'est. Mais deuxièmement, je pense que je suis pas encore prêt à. J'ai pas encore un niveau de confiance suffisant pour ce genre de produit.
Eh ben merci beaucoup, Régis Vincent. Je rappelle que vous êtes responsable de la partie software au SRI Robotics. Merci à vous.
Merci. Bonne journée.
Merci, Pauline. Place à notre World Tour. Donc avec vous, Lila Megraway et votre invité, on va parler de téléphone portable comme moyen de paiement aujourd'hui.
Éric Barbier, vous êtes PDG de Transfert. Tout, alors Transfert Théo. Vous êtes notamment spécialisé, alors vous allez me dire si c'est exactement ça, j'ai essayé de traduire ce qu'on appelle le airtime. Vous êtes spécialisé dans le transfert international de minutes de téléphonie mobile, c'est bien ça?
Oui, on parle souvent de minutes ou c'est de temps d'appel prépayé. Dans la plupart des pays dans le monde, les gens ont des téléphones prépayés, comme la MobiCard qu'on connaît en France. À peu près plus de 80% des personnes dans le monde ont en fait des téléphones prépayés. Donc nous, ce qu'on permet, c'est de recharger n'importe quel téléphone prépayé dans le monde. On a accès à plus de 5 milliards de téléphones, ou simplement on rajoute du temps de communication qui peut être utilisé soit pour de la voix, soit pour du SMS, soit même pour de la data.
Pourquoi ces clés? Vous êtes à la fois présent dans 80 pays, vous avez passé des partenariats avec 230 opérateurs mobiles. Alors de notre quotidien de Français, on se dit mais à quoi ça peut bien servir d'avoir davantage de minutes de téléphone? Mais en fait ça sert à bien autre chose, notamment à payer des factures, c'est ça?
Alors ce que nous on permet de faire, c'est de permettre à quelqu'un, à un immigré, par exemple à un Sénégalais qui vit, qui travaille en France, de pouvoir envoyer un petit cadeau à la famille restée au pays en rechargeant son compte Orange ou d'un autre opérateur mobile afin d'envoyer un petit cadeau, typiquement entre 5 et 20 euros. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là-bas, quand les gens en moyenne vont dépenser 2-3 euros par mois, donc c'est-à-dire que si vous leur envoyez 5 euros de crédit téléphonique, c'est en fait un très très beau cadeau que vous leur faites.
Pour se représenter, ça peut servir évidemment à communiquer par téléphone, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça peut payer également des minutes de téléphone?
Alors là, il faut faire la différence entre les minutes de téléphone et ce qu'on appelle souvent les porte-monnaies électroniques mobiles, les mobile money. Un des bons exemples, c'est Orange Money, qui est sur toute l'Afrique francophone. Un exemple très connu, c'est M-Pesa au Kenya. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que ces porte-monnaies électroniques mobiles sont des banques simplifiées. Que vous pouvez ouvrir sur présentation d'une pièce d'identité. Donc ce sont des systèmes qui sont complètement régulés par les banques centrales de ces pays-là. Les opérateurs mobiles ont mis en place tout un écosystème dans lequel vous pouvez mettre de l'argent liquide ou retirer de l'argent liquide auprès de tout le réseau de distribution de l'opérateur, récupérer de l'argent dans des ATM, même sans carte, c'est assez rigolo, payer des factures, payer des commerçants. Si vous êtes à Nairobi, la plupart des taxis, la seule façon de les payer, c'est avec M-Pesa, ce système de paiement par mobile.
Vous opérez la technologie qui a derrière le service.
Alors nous, ce qu'on permet de faire, c'est on interconnecte ces fameux systèmes de mobile money, qui sont en général dans les pays émergents, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et on les interconnecte avec les opérateurs de transfert d'argent comme Western Union, comme MoneyGram. Donc nous, on permet de faire l'interconnexion internationale entre les pays développés, en France, en Europe en général et aux États-Unis, avec les pays émergents. C'est une solution complètement B2B. Donc nous, on est en marque blanche et notre service est utilisé typiquement par Western Union pour faire ce transfert d'argent sur des téléphones mobiles.
On le voit, les messageries de réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook Messenger, qui s'intéresse aux paiements, aux petits paiements entre particuliers. Est-ce que c'est quelque chose que que vous suivez, que vous regardez?
Oui, alors c'est quelque chose qu'on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus, parce que nous, plus il y a de concurrence parmi les gens qui opèrent la partie visible par le consommateur, le plus ils ont besoin de gens comme moi qui permettent de gérer tous les tuyaux, qui permettent d'envoyer cet argent vers ces pays émergents. Parce qu'il y a une telle complexité de régulation, de monnaie, de devises qui sont particulières, etc. Ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, Facebook, Messenger, on peut faire du transfert d'argent, mais uniquement à l'intérieur des États-Unis. Et je rêve qu'ils ouvrent à l'international, parce que pour nous, ça va ouvrir un marché fantastique.
Merci beaucoup, Eric Barbier. Je rappelle, vous êtes PDG de Transfert Tout. T-O. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant. Suite et fin de cet atelier avec le crash test d'Antoine. Et puis, tout de suite, c'est la rédaction de Zéronet.com qui me rejoint avec Eric Le Bourlou. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans quelques instants. Et auparavant, nous sommes dans la rédaction de Zéronet.com comme chaque samedi avec Eric Le Bourlou, son rédacteur en chef. Bonjour Eric.
Bonjour.
Un coup d'œil sur l'actualité high-tech de cette semaine. Oui. Et on va parler jeux vidéo pour débuter, avec une petite larme que les fans de Xbox vont peut-être écraser sur leurs joues.
Eh oui.
La Xbox 360, ça y est, c'est fini.
C'est fini, alors c'est bon. C'est fini. Alors, en fait, Microsoft a annoncé effectivement qu'ils arrêtaient la production de cette console, la Xbox 360, qui est pas toute jeune, hein, qui remonte à 2005 déjà, hein, ça nous rajeunit pas.
Ça fait 11 ans.
Ça fait 11 ans. Donc voilà, ça y est, ils arrêtent la production. Il n'y aura plus de nouvelles Xbox 360 fabriquées par Microsoft. Donc il y en a encore en vente, mais ce sont les stocks.
Les derniers stocks.
Hein, si vous en voulez une, c'est maintenant. Hein. Il n'y en aura peut-être plus dans quelques
console
mois.
Console intéressante malgré tout. Encore. C'était un bon rapport qualité-prix avec de bons jeux. Hein.
Exactement. C'était une très bonne console. C'est la console qui a placé vraiment Microsoft sur le devant de la scène en matière de jeux vidéo, qui a tenu tête à Sony pendant toute sa génération avec la PS3 et qui avait pris de l'avance même sur la PS3 à l'époque où elle est sortie. Mais voilà, c'est terminé. C'est la fin de la Xbox 360. Alors pour que les joueurs se rassurent quand même, ceux qui jouent en ligne, etc., les services sont maintenus, mais par contre le matériel. Voilà. S'arrête.
Exactement. Il y a presque plus de jeux qui sortent sur Xbox 360 aujourd'hui.
Non, alors il y en a encore quelques-uns, mais c'est vrai que maintenant, ils privilégient évidemment leur nouvelle plateforme.
La Xbox One. Justement, on reste dans le domaine du jeu vidéo, alors que la Xbox One et la PlayStation 4 se vendent bien, même si la PlayStation 4 se vend mieux que la Xbox One, et c'est le problème de Microsoft. Malgré tout, on parle déjà de nouvelle génération de consoles, même si Eric, c'est pas tout à fait le mot génération qui va là, dans ce contexte.
Effectivement, là on parlait de la Xbox 360 qui a 10 ans, hein, qui existe déjà, mais là, déjà, les Microsoft comme Sony réfléchissent à l'après, alors que leur précédente génération a quand même duré très longtemps. Là, la PS4 et la Xbox One sont sorties il y a 2-3 ans, hein, en 2013, 2012-2013, et là, voilà qu'on se retrouve déjà avec une nouvelle génération de consoles qui pourrait être annoncée dès l'E3 2016, le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles.
Qui a lieu en juin prochain.
En juin, tout à fait. Mais effectivement, ce ne serait pas de nouvelle plateforme complète, hein, ce serait pas un changement de console en fait, ce serait juste une mise à jour de ces consoles. On en a vu d'autres des mises à jour de consoles, mais là ça a quand même une grosse différence, c'est qu'elle serait quand même plus puissante. Ce serait en fait une PlayStation 4.5, hein, on peut l'appeler comme ça, ou une Xbox One.
Boosté, voilà.
Alors, à quoi ça servirait? Effectivement, le problème des consoles, c'est qu'elles vieillissent assez vite, hein, quand on voit que le jeu PC, par exemple, continue d'évoluer en permanence. Et là, on arrive à avoir de nouveaux matériels dans nos salons. On a notamment maintenant les télé 4K qui commencent à arriver en force.
Voilà. Et ces consoles n'ont pas été conçues pour la 4K.
Exactement.
Hein. Donc, se retrouve à, malgré tout, un fossé technologique entre les téléviseurs 4K et ces consoles qui ne peuvent pas délivrer de jeux 4K.
Exactement. Il y a la 4K qui, effectivement, voilà, on est limité en 1080, il n'y a pas de 4K. Et il y a aussi la réalité virtuelle qui débarque. Alors Sony va lancer son casque, certes, mais on a besoin de davantage de puissance sur ces consoles maintenant pour les expériences vidéoludiques de demain. Donc ce que font Microsoft et Sony, c'est qu'ils planchent sur des améliorations techniques de ces consoles tout en conservant la compatibilité avec les jeux actuels. Alors c'est un peu une équation qui est très compliquée dans le monde du jeu vidéo et surtout des consoles. C'est-à-dire que pour les développeurs de jeux, ils vont devoir travailler sur un jeu qui va être à la fois compatible avec les précédentes consoles, la Xbox One et la PS4, et ces nouvelles consoles, il faudra que ce soit le même jeu, tournera de la même façon.
C'est-à-dire que, de manière transparente, moi j'achèterai un jeu, et voilà. Dès que je mettrai le jeu dans la console, il détectera si c'est la nouvelle console ou l'ancienne.
Exactement.
Et il s'adaptera, et j'aurai des
meilleurs
plus beaux graphismes, plus de fluidité, etc.
Voilà, plus de fluidité sur une version plus récente, tout en conservant effectivement le jeu en ligne, idem sur les deux consoles, etc.
Ça s'est jamais, c'est une usine à gaz.
C'est une usine à gaz, ça s'est jamais fait en fait pour l'instant dans l'histoire du jeu vidéo. C'est une nouveauté et ça complique énormément le travail des développeurs. Il y en a d'ailleurs qui râlent déjà parce qu'ils se disent ça, on va se prendre la tête.
Oui, parce que ça fait un double travail.
Ça fait un double travail. Il faut optimiser les jeux pour une plateforme et qui tourne tout de même bien sur l'autre. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué et surtout il faut pas que ça bug parce que les joueurs sur PC sont habitués à avoir des jeux qui marchent pas des fois, etc.
Ouais. Et sur console,
ce n'est pas possible.
Non,
il faut que le jeu
fonctionne. Pas dans la culture.
Exactement. Donc on va voir ce que ça va donner. Ces deux consoles pourraient être annoncées cette année. En tout cas, elles vont être annoncées sans doute assez vite. Et effectivement, elles seraient en tout cas compatibles 4K et promettraient de plus beaux graphismes.
Voilà. Et pour Sony, on pourrait imaginer aussi qu'elle intégrerait un lecteur Blu-ray ultra HD, puisqu'on sait qu'il commence à arriver sur le marché.
Tout à fait. Ça
permettrait aussi de booster comme ça l'ultra haute définition, même pour le cinéma.
Exactement.
Puisque rappelons que la PlayStation 3, avait été l'ambassadeur du Blu-ray.
Oui, donc,
voilà.
Et la PS2, le DVD à l'époque.
La boucle serait bouclée. Ouais. Du côté de chez Nintendo aussi, on murmure qu'une nouvelle console pourrait sortir. Alors là, c'est plus que des murmures, parce que ça fait des années qu'on parle de cette fameuse console NX de
Exactement.
Nintendo.
Là, c'est pareil. Ça pourrait, et ça a de grandes chances d'être annoncé à l'E3 2016. Et cette console, en fait, viendrait essayer de corriger l'accident industriel qui a été la Wii U, hein, la console qui a succédé à la Wii et qui était le succès génial de Nintendo. Mais la Wii U a très mal marché. Et voilà. Et donc, Nintendo reviendrait avec un nouveau concept. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette console. On peut s'attendre à tout avec Nintendo qui a souvent des idées un peu délirante, voire farfelue, et qui parfois marche très bien. On croit savoir en tout cas que ça pourrait être un mélange de consoles de salon et de consoles portables. Voilà, c'est tout ce qu'on sait à peu près. Et on sait aussi, par ailleurs, qu'elle serait au niveau technique des autres consoles du moment. Donc ça, c'est important, parce que Nintendo, s'il s'est planté avec la Wii U, c'est aussi parce qu'elle était moins puissante que les consoles qui étaient sorties en même temps. Et
elle
donc, elle avait une génération
HD,
de retard. En fait.
C'est ça,
voilà.
Le souci.
Donc la NX devrait aussi être présentée bientôt, et on s'attend à, évidemment, toute la suite de jeux Nintendo qui ira avec.
Voilà, les
Zelda,
Mario,
Nintendo,
les Zelda,
Mario, etc.
Voilà, qui pourraient sans doute revenir. Donc une année 2016
très riche en consoles, ouais.
Voilà,
ça va
être assez
croustillant pour la fin de l'année, pour Noël. Ouais.
En termes de jeux vidéo.
Exactement.
On va maintenant évoquer Netflix. Netflix qui s'apprête à sortir sa grande série Marseille, hein, qui voilà, va être sur tous les écrans, même sur TF1, puisque les deux premiers épisodes vont être diffusés sur TF1. Pour inciter les gens après à s'abonner à Netflix, c'est un truc de fou,
c'est un coup de pub assez exceptionnel.
Incroyable. Donc cette série qui se déroule à Marseille avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, qui sera disponible le 5 mai prochain, je crois bien. Et Netflix qui, malgré tout, pourrait évoluer sur son modèle économique et surtout sur la distribution de ses séries et ses films.
Exactement, puisqu'on sait que Netflix, voilà, il n'y a pas 36 moyens de regarder Netflix, il faut être connecté à Internet et il faut pouvoir déclencher un streaming et avoir une bonne connexion suffisante pour pouvoir regarder son film.
Si on a pas de réseau, si on n'a pas d'internet, on peut pas regarder Netflix.
Voilà. Et en fait,
ce qui n'est pas le cas avec, par exemple, Canal Play ou Canal Plus à la demande, où on peut
télécharger
en fait, le contenu
et
regarder dans le train
comme
ou dans l'avion.
On peut faire également, par exemple, avec Spotify ou Deezer, vous pouvez télécharger vos musiques avant pour les écouter quand vous voulez. Netflix s'était toujours refusé à faire ça. Ils n'ont jamais eu envie. Et d'ailleurs, ils le disaient très fort il y a encore assez peu de temps que jamais, ils n'autoriseraient le téléchargement sur leur plateforme. Eh bien, c'est en train de changer. Lors de leur dernière conférence de résultats qui s'est passée il y a quelques jours, répondant à une question, eh bien, il y a le patron de Netflix, hein, Reed Hastings, qui a simplement dit, voilà, avant on disait qu'on n'était pas très ouvert sur la question, maintenant, voilà, on la regarde. Et maintenant, Netflix, nous sommes ainsi global. On l'avait dit ici, hein, Netflix est disponible dans quasiment tous les pays du monde aujourd'hui. Et dans certains pays du monde, effectivement, il n'y a pas une connexion géniale. On n'a pas forcément de l'internet à très haut débit partout. C'est compliqué pour accéder à nos contenus. Donc, nous avons un peu évolué sur cette question et on réfléchit à proposer le téléchargement de séries. Et ça pourrait effectivement de séries et de films d'ailleurs, je dis séries, mais et donc on pourrait effectivement avec un abonnement Netflix demain. Alors c'est pas, ils n'ont pas annoncé de calendrier. On ne sait pas exactement encore quand ça pourrait arriver, mais on pourrait effectivement très vite pouvoir télécharger des séries depuis Netflix pour les regarder quand vous n'êtes pas connecté, ce qui effectivement, comme vous le disiez, est déjà une fonction en plus que ses concurrents, hein, en France notamment, ont, hein, par exemple.
Mais on imagine que ça sera pas indolore, hein, ce service-là, parce que ça demande à Netflix d'acquérir des droits qu'il n'a pas, parce que il faut savoir que on acquiert des droits pour le streaming en direct, mais pas forcément pour le téléchargement. Donc, il va falloir peut-être qu'il renégocie avec les ayants droit. Et donc, peut-être qu'on sera obligé de passer à la caisse aussi, Eric, à ce moment-là.
Exactement. Il se pourrait que Netflix, par exemple, lance un abonnement plus cher si on veut effectivement profiter du téléchargement. C'est d'ailleurs un peu le principe de Spotify, où vous pouvez utiliser Spotify avec de la pub et gratuitement. Et puis, le service premium, c'est justement
le fait d'enregistrer ses playlists.
Ouais. De télécharger ses morceaux. Donc là, ça pourrait être la même chose. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que Netflix a complètement changé de point de vue sur la question et que maintenant, ils vont essayer de mettre en place cette
Bien sûr. Bah, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Exactement.
Et on sait que Reed Hastings, le patron de Netflix, est tout sauf un imbécile quand
c'est
même.
C'est vrai.
On enchaîne avec Apple. Apple qui a annoncé un peu en catimini, Eric, cette semaine, la mise à jour d'un ordinateur qui pourtant, était assez prometteur. C'est le fameux MacBook. On va peut-être rappeler ce qu'est ce MacBook.
Alors le MacBook, ça a été annoncé l'année dernière. C'était le nouveau ordinateur portable d'Apple. Et c'est, effectivement, c'était un bel ordinateur, un ordinateur 12 pouces. Alors pour ceux qui connaissent un peu Apple, c'est ceux qui sont fans d'Apple, c'était l'ordinateur portable qu'ils attendaient.
Oui.
Voilà, le retour d'un format 12 pouces, hyper compact, très beau comme d'habitude chez Apple. Le seul problème, c'est que
très fin, un design sublime,
très beau, un super clavier, etc., etc. Le seul problème de cet ordinateur, c'est qu'il était très limitant. Il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas bien. Déjà, il était pas assez puissant. Et il avait une autonomie assez moyenne.
Oui.
Et puis, il avait aussi un problème de connectique. C'est-à-dire que Apple a fait le choix assez radical de ne mettre qu'une seule prise. Un simple port USB type C, qui est la nouvelle norme, mais qui est aujourd'hui pas très développée.
Donc pas de port USB, pas de port, même pour le recharger, on était obligé de passer par le port USB-C.
Exactement. Donc, et cette machine, en fait, on l'avait testée à 01net, on a dit, bon, ok, c'est très beau, c'est super, etc.
Mais une machine à écrire à 1 500 €,
voilà.
C'est un peu cher.
C'est un
quand
peu
même.
Cher. Ouais. Alors. Et Apple, voilà, discrètement, sans faire de conférence, etc., a mis à jour cette machine cette semaine. Le problème, c'est que ils ont fait une nouvelle couleur, l'or rosé. Alors, allez, vous avez une machine rose, ça c'est pas mal.
Ouais.
Et puis, vous avez aussi un processeur plus puissant, vous avez plus de mémoire, vous avez un disque dur plus rapide, certes, mais ils n'ont toujours pas corrigé. En fait, l'un des défauts principaux que l'on reprochait à cette machine, son manque de connectique, on va dire, et on reste avec les mêmes puces qui sont mine de rien des puces assez peu performantes et qui ne permettent pas à cette machine de devenir votre ordinateur portable de productivité. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire de l'édition d'images avec, ça va vite ramer, etc. Donc, c'est dommage et c'est bizarre puisque c'était cette machine qui représente un peu le fleuron maintenant des machines Apple. Parce que c'est un nouveau design, parce que c'est vraiment une belle machine, on est un petit peu déçu de cette mise à jour qui est pas si intéressante que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça sans doute que Apple n'a pas mis les petits plats dans les grands pour annoncer ces nouvelles machines simplement par communiqué de presse.
Parce qu'ils sentaient le vent du boulet arriver.
C'est possible.
Voilà. Ouais.
Mais,
bon,
voilà,
on verra
donc
bien.
Donc, on va un nouveau MacBook, mais qui, pour l'instant, ne déchaîne pas les passions. Hein, faut bien
Exactement.
Dire.
Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef, donc, de 01net.com. Vous restez avec nous. La suite de cet atelier numérique dans un instant. On va terminer avec le crash test d'Antoine. Il sera question d'ordinateur dans ce crash test. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business comme chaque samedi. Merci d'être là. L'atelier qui touche bientôt à sa fin. Et avant de se dire au revoir, avant de retrouver le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume de Groise dans ce studio. Salut Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Guillaume, bien évidemment, de l'atelier numérique. Guillaume, on va reparler des chatbots. On l'a évoqué tout à l'heure avec nos invités. Sujet passionnant. Vous vouliez y revenir.
Exactement. C'est le sujet de la semaine, François. Et nous en avons déjà longuement parlé en début d'émission. Mais effectivement, moi aussi, je voulais vous parler des chatbots. Alors, pas besoin de revenir sur le sujet lui-même, qui a été parfaitement expliqué par Frédéric Cavaza et Simon Robic. Mais juste pour nos auditeurs qui auraient raté le début de l'émission, on parle des chatbots, c'est-à-dire ces discussions robotisées qui permettent à une intelligence artificielle de converser, on va dire, de donner des informations à un utilisateur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, François, mais j'ai un peu de mal à trouver ce nouvel avatar de l'intelligence artificielle vraiment sympathique.
Mais parce que, Guillaume, vous n'avez pas envie de parler parler à un robot, c'est pour ça, mais vous allez vous y faire, j'en suis sûr.
Je suis pas sûr justement, mais vous voyez François, la promesse pour l'instant de ces chatbots est assez simple. Vous avez besoin d'une information, vous allez sur votre messagerie et vous demandez au chatbot de vous trouver l'info. C'est assez simple et c'est hyper efficace. D'ailleurs, dans les lauréats du MIT Review Innovators Under 35 France, dont l'atelier BNP Paribas est partenaire, il y a le projet JAM de Marjolaine Grondin, qui doit permettre aux élèves de retrouver les informations utiles à la vie étudiante sur un seul et même service.
D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle de JAM remonte les réponses aux questions des étudiants sur la base de données, des chambres en colocation disponibles ou des cours annulés. Mais pourquoi ça vous chagrine tout ça ?
Effectivement, JAM, c'est un projet très sympa. C'est l'application commerciale et marketing qui me semble délicate. Les marques ont bien compris la puissance de cette technologie et surtout l'usage qu'elles allaient pouvoir en faire et transformer les messageries mobiles en plateformes commerciales reliant consommateurs et entreprises. Si vous avez besoin de connaître l'heure d'ouverture d'une boutique ou pourquoi pas son adresse ou si tel article est disponible, c'est une façon pratique d'avoir accès à l'information. Je suis d'accord et c'est exactement ce que fait JAM. Et en fait, c'est ça dont on parle quand on parle de marques relationnelles, hein, c'est-à-dire de marques qui se ressentent sur les clients, qui cherchent à développer la relation en dehors même des moments de consommation ou d'achat, et donc apportent aux clients du brand content et cherchent à créer une relation pour le fidéliser. Et les chatbots qui existent aujourd'hui sont finalement une nouvelle version du relationnel de la marque, disponible 24 heures sur 24, serviable, poli, vont nous donner des informations dont nous avons besoin.
L'idée de savoir ce qui va se passer demain, en fait. C'est quoi le futur
François,
de tout ça, de ces chatbots ?
Qu'est-ce qui va se passer ? Et pour moi, l'arrivée des chatbots, c'est la fin de l'humanisation, du customer-centric, comme disent nos amis du marketing. Puisque au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour engager la discussion et générer en fait de l'échange entre la marque et le consommateur, on risque d'enfermer cet échange à de simples informations. Car les marques aujourd'hui cherchent à aller plus loin qu'à être simplement une marque relationnelle et devenir des marques conversationnelle, qui organise une interaction étroite, qui crée un dialogue centré sur la marque, sur l'expérience, et on a toujours cherché à réellement créer cette relation et cette conversation à travers les réseaux sociaux. C'est toute la force d'un bon community management. Alors, apporter aux consommateurs autre chose qu'une simple information, je sais pas. Mais si vous transformez votre community manager en bot, en robot, est-ce que le client aura vraiment le sentiment d'être en conversation avec la marque? Ça, franchement, je me pose des questions.
Et puis, il y a un sujet aussi qui vous fait peur, c'est que, en fait, on se transforme un peu en Skynet, c'est ça?
Alors, on va pas aller jusqu'à Skynet, mais finalement, est-ce que c'est la marque qui va gagner? Est-ce que c'est le robot qui va gagner? Mais en fait, le sujet, c'est que on peut imaginer qu'on pose une question sur un site, disons au hasard BFM, sur l'heure à laquelle sera diffusée l'excellente émission L'Atelier Numérique.
Je ne vous le fais pas dire.
Voilà, le robot vous répondra sans problème. Mais en fait, si vous posez cette question à Messenger directement, si vous posez cette question dans WeChat, si vous posez cette question à Siri ou à Amazon Echo, et que vous demandez un taxi, il va vous servir quoi ? Un Uber, un G7, un taxi bleu, et là, d'un seul coup, la marque disparaît complètement. Alors, est-ce que demain, il y aura du SEO pour bot ? Ça, c'est une bonne question.
Oula, réponse au prochain numéro. Merci beaucoup, Guillaume de Groisse de l'Atelier. Et place maintenant au crash test d'Antoine Cyr.
L'Atelier Numérique sur BFM Business.
Antoine, le point de départ de ce crash test, c'est quand même un bel hommage à tout ce qu'on évoque chaque samedi depuis de nombreuses années, c'est l'ordinateur.
Ben oui, on prononce ce mot ordinateur sans forcément savoir d'où il vient.
Et oui, c'est vrai.
Et évidemment, d'où vient l'ordinateur ? Eh bien, on trouve à tout seigneur, tout honneur, la réponse sur le web. Je l'ai trouvé notamment dans un article de Rachid Majoub dans Combini.com. Il faut, pour trouver l'origine de ce mot, remonter au printemps 1955. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur aurait pu s'appeler systémateur, combinateur, congesteur ou même ordinatrice. Il y a plein
ordinatrice.
Ça a l'air de vous choquer plus que les autres.
Non.
Ah bon, quand
non,
même.
Non, mais c'était non, plus sympa, je trouve, ordinatrice.
Bah oui, c'est sympa, ordinatrice, voilà.
Ah bon, non.
Bon. Sauf que vous dites, je ne fais rien, tout est fait par l'ordinatrice, c'est un peu sexiste.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bon. Donc, l'ordinateur, c'est...
Voilà, au moins comme ça calme les...
Voilà. Alors, en fait, donc on est au printemps 55, et donc dans son usine de Corbeil-Essonne, hein, très connue, IBM France vient de créer sa deuxième machine électronique qui est destinée au traitement de l'information. C'est l'IBM 650. Et là, eh bien, il faut lui trouver un nom. Alors bien sûr, IBM, c'est une filiale d'une entreprise américaine. Mmh. Donc on se demande comment on appelle les machines aux États-Unis. Et à l'époque, les machines équivalentes sont appelées Electronic Data Processing System, ce qui est beaucoup trop long et qui en France ne va pas,
oui,
ne va pas fonctionner. Donc il faut trouver un nom français. Alors évidemment, on envisage d'appeler ça computer parce que le mot anglais existe déjà. Mmh. Et d'ailleurs, de temps en temps, les gens disent un computer. C'était un mot dans les années 60. Les gens disaient dans mon entreprise, il y a un computer.
Il y a un computer.
Voilà.
Oui. Maintenant, on dit laptop.
Voilà.
Ou desktop.
Oui, mais à l'époque, on disait il y a la salle du computer, oui, hein, qui faisait 200 mètres carrés.
C'était très cérémonial. Voilà. Hein. Tiens, je vais te montrer computer.
Je vais te montrer mon computer. Voilà. Exactement. Et donc, mais simplement computer, indépendamment du fait que c'est un anglicisme, signifie plutôt quand même calculateur ou calculatrice. Et donc, les Français qui aiment bien les mots précis se sont dit, il faut qu'on aille chercher un mot plus précis. Mmh. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que chez IBM, il y avait un cadre qui avait fait des études littéraires en Sorbonne et qui sollicite l'un de ses anciens professeurs, Jacques Perret, qui était professeur de philologie latine à la Sorbonne. Et donc, Jacques Perret écrit une lettre datée du 16 avril 1955 que je vais vous lire, je pense, intégralement.
Oula, elle fait 18 pages. Hein,
Non. « Cher monsieur, répond le professeur Perret à son ancien élève, que diriez-vous d'ordinateur ? C'est un mot correctement formé, qui se trouve même dans le littré, comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe ordiné, un nom d'action ordination. L'inconvénient est que ordination désigne une cérémonie religieuse. Mais les deux champs de signification, religion et comptabilité, sont si éloignés et la cérémonie d'ordination connue, je crois, de si peu de personnes que l'inconvénient est mineur. D'ailleurs, votre machine serait ordinateur et non ordination et ce mot est tout à fait sorti de l'usage théologique. Systémateur serait un néologisme mais qui ne me paraît pas offensant, il permet systématiser. Mais système ne me semble guère utilisable. Combinateur a l'inconvénient du sens péjoratif de combine. Combiné est usuel, donc peu capable de devenir technique. Combination ne me paraît guère viable à cause de la proximité de combinaison. Congesteur, digesteur évoque trop congestion et digestion. Synthétiseur ne me paraît pas un mot assez neuf pour désigner un objet spécifique. Alors là, il s'est trompé quand même, professeur Perret. En relisant les brochures que vous m'avez données, je vois que plusieurs de vos appareils sont désignés par des noms d'agents féminins. Trieuse, tabulatrice, ordinatrice serait parfaitement possible et aurait même l'avantage de séparer plus encore votre machine du vocabulaire de la théologie. Il y a possibilité aussi d'ajouter un nom d'agent, un complément. Ordinatrice d'éléments complexes ou selecto-systémateur, selecto-ordinateur, qui a l'inconvénient de deux O en hiatus comme électro-ordinatrice. Il me semble que je pencherai pour ordinatrice électronique. Je souhaite que ces suggestions stimulent, orientent vos propres facultés d'invention. N'hésitez pas à me donner un coup de téléphone, quelle audace,
oh là là,
si vous avez une idée
55, les amis.
Qui vous paraît requérir l'avis d'un philologue, votre Jacques Perret. Alors finalement, c'est quand même le mot qu'il a proposé
en premier. Ordinateur qui a été pris.
Alors la lettre de Jacques Perret, l'original de la lettre de Jacques Perret, se trouve encore à la direction de la communication d'IBM France, qui doit être basée aujourd'hui, je pense, à la Défense, et Tour Septentrion même, à mon avis. Et donc, il est possible d'obtenir, je pense, un facsimilé de cette lettre, mais de toute façon,
lettre charmante,
voilà,
sympa.
Enfin, c'est merveilleux quand même, le professeur qui dit que diriez-vous d'ordinateur, c'est quand même émouvant,
parce que
quand vous pensez aux milliards de fois que des francophones ont utilisé ce mot, c'est vraiment impressionnant.
Même Dorothée avec Monsieur l'ordinateur.
Belle chanson. Tout à fait. Bien, très, 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 très belle chanson. Je la fredonne tous les jours sous ma douche.
C'est vrai. Je ne doute pas.
Alors, donc il y a IBM, cela dit, est quand même assez riche en anecdotes historiques assez amusantes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans l'ancien siège d'IBM, qui est aujourd'hui un peu leur centre de conférence à New York. Plus exactement, pas à New York, mais à Harmonk, dans l'État de New York. On y voit notamment une très vieille voiture noire qui servait à faire les livraisons de machines à calculer d'IBM. Hein, vous savez que IBM était né en 1911 comme la Computing Tabulating Recording Company. Admirez mon accent. Ensuite, ils se sont dit que ça pouvait être un tout petit peu compliqué. Et donc, c'est en 1924 que cette compagnie est devenue International Business Machines.
IBM.
Et oui. Voilà, qui a d'abord été utilisé pour la filiale canadienne, et puis finalement, c'était un nom qui était tellement plus sympathique que CTR, que finalement, ouais, il est devenu le nom générique de l'entreprise.
Mais en écoutant votre crash-fest, je me dis que peut-être le mot ordinateur arrive au bout, finalement, de son histoire, parce que maintenant, on dit presque plus ordinateur, on dit ou PC ou Mac.
C'est vrai.
Des choses comme ça.
C'est vrai, mais enfin, ça se...
C'est un mot qui commence à avoir un peu de patine, oui, qui commence à être un peu vintage.
Il est un peu vintage, mais quand on doit définir l'objet dans un texte écrit, par exemple, on dit souvent, quand même encore, votre ordinateur.
Oui, c'est ça, effectivement. Merci Antoine pour ce crash-test sur l'origine de l'ordinateur, et c'est avec ce crash-test. Est-ce que se termine cet atelier numérique sur BFM Business? On vous souhaite un bon week-end. On est là chaque samedi 16h-18h. Portez-vous bien et à samedi prochain.